La Bible dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, à partir du verset 22, une histoire bien connue de l'évangile. Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. » Tout de suite, j'aimerais attirer votre attention sur cette dernière expression. Dans la bouche des disciples du Seigneur se trouve cette déclaration extraordinaire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Cela veut dire que, pour la première fois, ils reconnaissent cette vérité essentielle. Effectivement, dans l'Évangile, on s'aperçoit, notamment le jour où Jésus est descendu dans les eaux du baptême, une déclaration a été faite par le Père. Et Dieu a dit au sujet de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Même plus tard dans l'Évangile, il y a l'histoire des possédés de Gadara, qui également ont fait cette déclaration et ont reconnu dans la personne de Jésus qu'il était le Fils de Dieu. Quand je découvre au travers de ce récit que les disciples en arrivent à ce point précis où ils ont la révélation que Jésus est le Fils de Dieu et deviennent des adorateurs, je me dis « Ça vaut la peine de traverser des tempêtes. Ça vaut la peine de traverser des moments difficiles. Si à un moment donné, cela nous amène à tomber à genoux aux pieds du Seigneur et reconnaître qui il est. » Et effectivement, la déclaration la plus belle pour moi, c'est de reconnaître que Jésus, Fils de Dieu, est tout puissant. Nous avons entendu un chant qui met en relief la puissance de Dieu, créateur, la puissance de Dieu aussi, qui est sauveur et qui est capable de mettre une espérance dans le cœur de ceux qui se tournent vers lui. Eh bien, voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé pour que les disciples puissent arriver à une telle conclusion ? Il y a 5 points que je vais développer très rapidement. Ils ont eu la révélation de l'autorité divine de Jésus. La deuxième chose, c'est qu'ils se sont aperçus de la connaissance divine de Jésus. Et ils ont également fait l'expérience de la protection divine de Jésus. Ils ont découvert, notamment, en particulier, Pierre, un des disciples, l'amour divin, et en conclusion, eh bien, ils ont pu s'apercevoir combien était grande la puissance de celui qu'ils venaient de reconnaître comme étant le Fils de Dieu. Alors reprenons point par point, et je vais aller assez rapidement. Premièrement, autorité divine. Jésus parle juste après une expérience un peu particulière. Ceux qui connaissent l'Évangile savent que juste avant cela, eh bien, il y a eu la multiplication des pains et la foule était enthousiasmée. Et cette foule ne désirait qu'une seule chose. L'Évangile nous dit que les gens qui étaient là et qui avaient pu manger à satiété en pensaient que finalement ça valait la peine d'avoir un roi tel que le Seigneur. Et d'ailleurs, ils étaient prêts à le proclamer comme roi. Mais Jésus savait que ce qu'il était venu faire ici-bas sur la terre n'étant pas encore accompli, eh bien, il ne pouvait pas aller dans le sens du désir de la foule. Mais en même temps, Jésus s'est aperçu que ses propres disciples pouvaient subir une influence négative, parce que finalement, eux déjà avaient dans leur cœur pensé que si Jésus était le Messie, s'il était roi, eh bien, ils auraient la possibilité d'occuper une place d'honneur à côté de lui. Et cette image de la foule qui pressait le Seigneur et qui voulait aussi le faire roi avait un mauvais impact dans le cœur des disciples. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur ? Il leur a ordonné, voilà l'autorité, il a dit, il les a obligés à monter dans la barque et à passer de l'autre côté. Et on s'aperçoit que, peut-être malgré eux, mais en tous les cas, dans une soumission parfaite, ils sont montés dans la barque et sont partis pour obéir au Seigneur. En même temps, je dirais parallèlement, la Bible me dit que Jésus a renvoyé la foule. Et certains commentateurs sont d'accord pour dire que cette foule était très importante. Ils évaluent à peu près entre 20 000 et 25 000 personnes. Il y avait les hommes et le nombre des hommes est donné, mais comme il y avait aussi les femmes et les enfants, on estime que cette foule, eh bien, elle était de 20 à 25 000 personnes. Et vous savez, ces derniers temps, nous avons pu, les uns et les autres, en suivant les médias et ce qu'ils nous disent, nous rendre compte de la difficulté qu'il y a à renvoyer une foule quand justement elle est en pleine manifestation. Ce n'est pas une chose aisée, mais Jésus l'a fait avec une autorité telle que tous ces gens-là se sont dispersés, ils ont fini par partir. Voyez-vous, c'est bon pour moi de proclamer que Jésus a une autorité telle que tout peut lui obéir. Et quand il parle et qu'il appelle quelque chose, même n'étant pas encore, eh bien, elle arrive. C'est comme cela que l'univers a été créé. Il a dit et la chose est arrivée. Et j'aimerais encourager quelqu'un ici cet après-midi. Voyez-vous, dans le simple témoignage que notre frère a apporté, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Il a dit à un moment donné, avec un brin d'humour, « Regardez avec quelle foi je me suis adressé à Dieu. Oh Dieu, si vous existez, alors venez à mon secours. » Et le frère nous a dit, c'est ce qui s'est passé. Et à partir de ce moment-là, la foi a commencé à poindre dans son cœur. Et il a dit, peut-être finalement, qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui entend nos prières. Oui, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, la Bible dit clairement, si un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Et il a l'autorité pour nous délivrer de tout ce qui nous accable. Deuxième point, eh bien, nous nous apercevons qu'il a une connaissance divine. Jésus a laissé partir les disciples et il est monté là sur la montagne et la Bible dit pour prier. Et notez bien, il ne pouvait pas suivre du regard sur le plan physique ces hommes qui avaient déjà fait une certaine distance et qui avaient lutté. Je voudrais simplement mettre en relief, vu qu'il est dit que Jésus est allé à leur secours à la quatrième veille de la nuit, ça veut dire donc que pendant 9 heures à peu près, les disciples ont travaillé, lutté contre le vent, contre les vagues. Ils ont quand même franchi une certaine distance. Et Jésus est sur la montagne. Mais il sait tout. Il voit tout. Il connaît la souffrance de ses disciples. Peut-être qu'à cet instant même, les disciples sont en train de se poser la question « Mais pourquoi nous a-t-il donc dit ?» de passer de l'autre côté. Nous sommes en pleine difficulté, en pleine tempête. Mais où il est, lui? Que fait-il pour nous? Mais le Seigneur voyait tout. Mais il se presse pas. Voyez-vous, le Seigneur attend toujours, toujours le dernier moment. Parce que quand il intervient, c'est pour donner la preuve que lui seul est capable d'accomplir et de réaliser ce qu'il apporte comme bénédiction. Il y a un témoignage supplémentaire que l'on peut tirer de la Bible. La Bible nous parle d'un certain personnage qui s'appelle Lazare, qui est tombé malade, subitement, gravement malade, et puis qui finalement est décédé. Mais juste avant, on avait averti le Seigneur, et on lui avait dit « Celui que tu aimes, Lazare, est malade. » Et il y a évidemment là une pensée qui nous vient dans le cœur. Jésus aurait dû répondre immédiatement à ce cri-là. Mais la Bible nous dit qu'il est resté encore 2 jours là, et seulement après, il a pris la décision d'aller, alors qu'il semblait, humainement parlant, que c'était trop tard. Mais Jésus connaissait tout, il savait tout. Et quand il a parlé à ses disciples, il leur a dit « Allons maintenant, parce que Lazare dort et nous allons le réveiller. » Et les disciples étaient étonnés. Alors ils disaient « Mais s'il dort, c'est comme inutile que nous nous déplacions. » En fait, Jésus parlait véritablement de la mort. C'est-à-dire qu'il attend des fois que nous atteignions le point de non-retour pour que toute confiance en la chair disparaisse de nos cœurs et que nous placions notre confiance dans le Dieu pour qui rien n'est impossible. Et j'aimerais bien que quelqu'un puisse comprendre aujourd'hui qu'en notre Dieu, tout est possible. Il connaît notre situation, il connaît votre problème, il connaît la difficulté que vous êtes peut-être en train de traverser. Il connaît votre souffrance. Il n'ignore pas cela. Ne croyez pas qu'il vous a oublié. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait sur la montagne? Il priait. Et je sais une chose, c'est que la Bible nous dit que Christ, dans la gloire, il intercède pour nous. Il vous connaît, il vous aime. Et il a le pouvoir de vous secourir, et c'est bien de savoir que rien n'échappe à sa connaissance. Le troisième point, eh bien, c'est qu'il descend pour faire valoir qu'il est le protecteur divin. Il y a une protection divine dans le Seigneur, et personne d'autre ne peut faire ce que Christ est capable d'accomplir. Il arrive en marchant sur les eaux. Il semble bien que cela pouvait paraître aux disciples impossible, mais encore une fois, le texte nous dit que le Seigneur à la quatrième veille de la nuit. J'aimerais vous placer devant vous comment étaient découpées les veilles à cette époque-là. La première veille, ça allait de 18h à 21h. La deuxième veille, c'était de 21h à minuit. La troisième, de minuit à 3h du matin. Et la quatrième, c'est là où Jésus se déplace, c'est de 3h du matin à 6h du matin. C'est-à-dire que, vous voyez, tout le travail qui avait été accompli, mais en même temps, le désespoir qui était dans le cœur de ses disciples. Et Jésus arrive au bon moment, il va manifester sa protection, mais de quelle manière? Il marche sur les eaux et un autre évangéliste, c'est-à-dire l'évangéliste Marc, nous dit que même à un moment donné, il a paru vouloir aller plus loin, comme s'il ne faisait pas cas à ses disciples qui étaient dans la difficulté. Il a paru vouloir aller plus loin. Mais pour quelle raison? Parce que, à un moment donné, les disciples qui croyaient que c'était un fantôme, eh bien, ont crié. Et Jésus a dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Mais il a fallu qu'ils crient. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et je le répète, le Seigneur attend que vous criez vers lui. Des fois, j'entends des personnes qui disent, « Pasteur, priez pour moi. » C'est vrai, nous devons le faire, et je suis prêt à le faire. Il y en a d'autres qui disent, « Eh bien, priez pour nous, priez pour nous. » Et il y a des chrétiens qui se motivent, et c'est bien, puisque la Bible dit que nous devons prier les uns pour les autres. Mais il y a des moments où nous devons, à titre personnel, quand on est dans une situation difficile, eh bien, nous adresser au Seigneur et il entend notre voix. Quelquefois, des personnes ont dit, « Ah, mais, pasteur, moi je ne sais pas m'adresser à Dieu comme vous pouvez le faire. C'est la raison pour laquelle on vous demande de prier pour nous. » Mais vous savez, Jésus entend le cri du cœur. Qu'est-ce que c'est la prière? C'est simplement exprimer ce qu'il y a dans notre cœur, comme un enfant pourrait le faire vis-à-vis de son père. Quand nous sommes comme cela, vrais, sincères, et que nous crions à Dieu, Dieu entend et il vient au secours. Et immédiatement, il y a eu le calme. Mais j'aimerais attirer votre attention aussi sur l'expérience faite par Pierre. Voyez-vous, il dit « Si c'est toi, Seigneur !» Ne croyez pas que ce « si » est le « si » de l'incrédulité. Non, il dit « si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Essayons de comprendre. Pierre est en train de dire « Je préfère être avec toi, en dehors de cette sécurité apparente que représente la barque, que dans la barque, sans toi. » Et c'est la raison pour laquelle Jésus a pu exprimer, eh bien, une parole qui a communiqué à Pierre le pouvoir de marcher sur les eaux pendant un temps. Un temps, parce qu'après il a douté, et entendant le flot, le bruit des vagues, le vent, il a commencé à détourner les regards du Seigneur, mais tant que ses yeux étaient fixés sur le Seigneur, Dieu lui a permis de faire une expérience remarquable. J'aimerais vous dire, mes chers amis, que cela est une possibilité pour quiconque croit. Des fois, nous avons des situations dans lesquelles nous nous complaisons, parce que nous croyons qu'il y a là une certaine sécurité pour nous, une certaine assurance, que nous avons là le confort dont nous avons besoin, qui est suffisamment nécessaire. Mais le Seigneur, parfois, eh bien, nous demande de faire un pas de plus. Parce que voyez-vous, même votre confort, même le refuge dans lequel vous pouvez vous trouver, ou que vous recherchez sans Dieu, ne pourra pas vous offrir tout ce que le Seigneur est capable de vous donner si vous vous abandonnez entre ses mains. Et c'est une expérience que quelqu'un peut faire ici. Et Pierre a découvert ici l'amour divin du Seigneur. Voyez-vous, il aurait été impossible que Jésus réponde au désir de Pierre s'il y avait eu dans son cœur des pensées qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Mais comme son cœur était vrai et sincère, Jésus lui a permis de faire une telle expérience. Et je termine en vous disant, avez-vous remarqué? Quelle puissance de la part du Seigneur. Dès que Jésus a parlé aux disciples, dès que Jésus est rentré dans la barque, aussitôt, les vagues se sont calmées, le vent s'est tu, et là, le Seigneur a démontré la puissance qui est la sienne. C'est vraiment le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Le vent lui obéit, les vagues lui obéissent, tout l'univers obéit à notre Dieu, et même le prophète Ésaïe dit qu'il a déployé dans le ciel l'armée des étoiles qui obéissent à notre Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il y a des lois tellement précises dans notre univers, parce que ces lois ont été établies d'une manière certaine, sûre, et elles ne changeront jamais. C'est ce qui explique que les hommes d'ailleurs puissent accomplir au niveau de la science des choses remarquables, parce que les lois établies par Dieu ne changent pas. Notre Dieu est tout-puissant. Ne craignez pas, mais faites-lui confiance. Invoquez-le du fond de votre cœur. S'il y a maintenant, là, dans votre cœur, le désir de voir sa gloire, eh bien, faites la prière de Pierre. Faites-lui confiance, abandonnez-vous entre ses mains, et il agira en votre faveur. Que Dieu vous bénisse.